des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Faire sa sortie du placard, faire son coming out pour tous ceux qui l'ont vécu, c'est une expérience dont ils se souviendront évidemment pour le restant de leur jour. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. En tout cas, il y a une série documentaire qui va être présentée ce printemps sur les ondes de Moi et compagnie. Et c'est une idée de Debbie Lynch White, la comédienne qu'on adore. Bonjour Debbie Lynch White, comment allez-vous?
Bonjour, ça va et vous?
Ben, moi, ça va très bien. Quelle bonne idée vous avez eue de faire cette série documentaire sur le coming out, la sortie du placard. Pourquoi vous avez ressenti le besoin de faire cette série-là?
Ben, tout d'abord parce que je pense que moi, j'aurais aimé avoir les ressources et les outils pour faire mon coming out plus tôt. Puis, parce que à force de fouiller, je me rendais compte que c'est un sujet qu'on n'avait pas beaucoup abordé, tu sais, à part, par exemple, des influenceurs dans des capsules sur YouTube ou tu sais, on a effleuré le sujet, mais d'aller vraiment ça m'intéressait d'aller entendre des histoires de coming out, d'aller au cœur avec des gens qui l'ont vécu. Je trouvais que ça avait pas été assez approfondi au Québec, en fait.
Et quand vous dites, vous auriez souhaité peut-être le faire plus tôt, à quel âge vous l'avez fait et dans quelles circonstances?
Je l'ai fait, moi, à 29 ans, sur le tard. Puis, mais je le savais depuis une dizaine d'années, là. Tu sais, j'avais fait mon coming out à moi-même depuis longtemps. Mais je l'ai fait, en fait, je l'ai fait parce que je trouve que c'est un très beau sentiment, mais qui peut survenir, on sait pas trop quand ni comment, mais je me suis vraiment sentie cohérente envers moi-même, puis on dirait que ça m'a donné cette espèce de pouvoir, de puissance pour le faire. Puis tu sais, personne dans mon entourage en a été très étonné. quelques personnes sont mortes au combat, comme je dis, malheureusement.
Ah oui?
Mais c'est pas... Oui, mais tu sais, c'est pas à moi à faire leur chemin, là, ça m'appartient pas, donc...
Mais c'est là qu'on voit qui sont des vrais amis ou qui sont des vrais proches, parce que si le simple fait de faire votre coming out fait que ces gens-là s'éloignent de vous, c'est peut-être qu'ils étaient pas si près de vous que ça dès le départ.
Ah oui, complètement. Mais aussi parce que ça les confronte, eux, souvent, à certaines choses, à certaines valeurs qu'ils ont depuis longtemps et tout ça. Puis en même temps, si on renverse le point de vue, j'ai entendu un témoignage d'un homme homosexuel qui disait « Moi, j'ai eu toute ma vie pour m'y faire. »
Ah, c'est bon, ça.
Là, pour la réfléchir. Et donc, j'ai fait mon coming out et je peux pas non plus exiger que la personne devant moi fasse ce chemin-là en 2 secondes, tu sais.
Donc, je comprends.
C'est intéressant quand même. Mais oui, tu sais, les coming out, il y a autant d'histoires de coming out qu'il y a de personnes, il y a autant de façons de le vivre. Puis c'est ça que j'ai envie de couvrir, en fait. Autant les beaux coming out qui se passent super bien que d'autres qui se passent très mal et tout le spectre entre ça, tu sais.
Oui. Puis aussi, il y a plusieurs coming out. C'est-à-dire, vous l'avez dit vous-même, vous aviez fait votre propre coming out à vous-même. Puis après, il y a plusieurs étapes. Il y a, on fait un coming out devant nos amis. Après, ça peut être la famille. Puis quand on dit famille, ça peut être les parents, les frères et sœurs, les oncles et tantes. C'est pas le même coming out. Puis le coming out professionnel et, dans certains cas, comme vous, quand on est un personnage public, on choisit de faire un coming out en public. Comment vous voyez ça, les gens qui sont des comédiens, des politiciens et qui ne font pas leur coming out? Est-ce que ça vous dérange ou c'est quelque chose que vous dites, ben, ça leur appartient, ils sont pas obligés de le faire?
Oui, non, complètement. Ça leur appartient. Tu sais, j'ai pas à juger ça du tout. Je pense que c'est tellement quelque chose de personnel. Si une personne se sent pas à l'aise de le faire, ben ça la regarde. Puis moi, j'ai décidé de le faire comme ça parce que je pense que j'ai toute ma vie été un livre ouvert, assez ouvert avec pas mal tout le monde, tu sais. Puis ça faisait sens pour moi. Puis parce que j'ai ce profond désir depuis toujours d'essayer. C'est, je le dis en toute humilité, là, mais d'essayer de changer le monde. Tu sais, je ressens cet élan-là de me dire. sais, je reçois tellement de témoignages. Encore ce matin, une jeune fille m'a écrit que grâce à moi, elle vient de faire son coming out, tu sais.
Êtes-vous sérieuse? Mon Dieu, ouais. C'est quelle belle histoire!
Mais vraiment, il y a des témoignages, j'ai des témoignages de mères, des fois, qui m'écrivent en me disant, grâce à vous, je comprends mieux mon enfant. Il y a des choses comme ça qui se passent où je fais, c'est ça que je dois faire. Et pour moi, ça fait complètement sens. À chaque semaine, je rencontre des personnes où, tu sais, j'entends des histoires inspirantes, puis je me dis, ben, ensemble, on peut en inspirer d'autres, tu sais.
Tout à fait. Mais quand je parlais tout à l'heure des personnalités publiques qui ont choisi de ne pas faire leur coming out, vous m'avez dit, moi, je les juge pas, mais je me doutais bien sûr, Déby, que vous étiez pas du genre à juger. Mais c'est juste, je me demande, puis j'aimerais ça qu'on réfléchisse ensemble là-dessus, quel message aussi ça envoie? Parce que si on cache cette partie-là de notre vie, de nos amours, le fait de le cacher, de pas en parler ouvertement, est-ce que c'est pas aussi envoyer un message de dire ben c'est quelque chose qui est gênant ou c'est quelque chose qui peut-être le prix politique ou le prix public à payer est trop fort. Moi je rêve d'un jour où faire son coming out ça va être quelque chose de tout à fait qui aura zéro conséquence, mais peut-être que justement il y a des conséquences, peut-être qu'il y a des gens pour qui le prix à payer est trop fort.
Ah oui, complètement. Complètement. Puis je rêve de ce jour aussi où on n'aura pas à s'inquiéter de faire un coming out. Mais oui, le prix à payer, je veux dire, faut quand même être armé aussi émotivement, psychologiquement, intellectuellement pour faire ça, dans le sens que, tu sais, je veux dire, j'en reçois là des commentaires homophobes. J'en reçois des commentaires homophobes sur ma femme. Faut être prête à gérer ça aussi. Et je dis pas que ces personnes-là ne sont pas prêtes à le faire, mais oui, il y a un revers à la médaille. Et oui, il y a des conséquences. Je veux dire, ne serait-ce que dans le monde du sport,
c'est vrai.
Je veux dire, il y a des sportifs qui, étrangement, ne sont pas au prochain repêchage. Tu sais, il y a des choses comme ça. Qui existe et c'est pour ça qu'il faut faire des séries comme l'histoire de mon coming out où est-ce que je pense que plus on va en parler plus les gens vont être à l'aise de le faire. Puis moi je connais des personnes qui ne le font pas aussi par respect pour leur famille parce qu'ils ne veulent pas faire porter ce fardeau-là à leur famille, de se faire dire ah oui, ton fils est homosexuel ou tout ça, puis ils se disent j'aime mieux pas embarquer parce que quand on est une personnalité connue, on traîne d'autres personnes avec nous aussi là-dedans. Donc, je pense qu'il y a des conséquences à payer. Et est-ce que de ne pas le dire, ça veut dire quelque chose? Je pense que rendu là, c'est encore une chose très personnelle. Puis, ça nous dit en tout cas qu'on a encore du chemin à faire comme société, tu sais.
Ben absolument. Puis aussi, je dirais que quand on est une personnalité publique, c'est comme si les gens ne vous regardaient que... Là, lui, c'est le politicien gay. Elle, c'est la comédienne gay, comme si c'était ça, puis que vous étiez ça se résumait à ça. Je pense, par exemple, à André Boisclair, tu sais, qui était à la tête du PQ. Combien de commentaires on a fait, je veux dire, des gens, évidemment, homophobes, mais qui ramenaient chaque fois que ce gars-là faisait un pas de travers, on le disait, ah, oh, ben, on le sait bien, lui, il est gay. C'est comme si toute la communauté gay, comme si lui était responsable de toute la communauté gay. Ça peut être un poids très lourd aussi à porter.
Oui, puis c'est que ça amène toute la question des catégories, de ce concept-là de devoir catégoriser pour se rassurer comme personne parce que c'est rassurant de dire, ah ben, elle est lesbienne, lui, il est hétéro, lui, tu sais, et ce besoin-là, moi, j'ai envie de le décarcaner aussi, j'ai hâte là, qu'on soit juste dans une grosse boîte écrit être humain. Là,
puis, oui, tout à fait.
Ça, j'ai bien hâte de ça. Mais donc, c'est ça, je pense que oui, il y a forcément un étiquetage qui peut se faire. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas faire de coming out pour cette raison-là aussi, parce que ça leur tente pas. Ils se définissent plus comme queer, ça leur tente pas d'être étiquetés aussi. Puis je les comprends.
Mais non, tout à fait. Puis on le voit aussi qu'il y a des fois tellement de violence sur les médias sociaux. Je veux revenir sur, vous avez parlé tout à l'heure de votre blonde, de votre femme. Ça fait trois ans de mariage. Félicitations.
Merci.
Les noces de Froment, hein, je pense que c'est ça que vous avez écrit sur votre page Facebook. C'est sûr que ça doit pas être facile pour votre blonde Marina, je pense, oui. Pour votre femme, parfois d'être la cible d'un dommage collatéral. Là, quand les gens veulent vous faire de la peine à vous, ils s'en prennent à votre femme. Ça doit pas être facile non plus tous les jours. Alors que, ben, je veux dire, si vous étiez mariée avec un homme, je pense pas que les gens s'en prendraient à votre chum, à votre mari, s'ils voulaient vous faire de la peine à vous. Là, c'est comme un double standard quand même.
Oui, mais tu sais, bien honnêtement, je pense que j'ai la chance d'avoir une femme extrêmement solide, extrêmement forte. Je pense que ça ne semble pas l'atteindre tant que ça. En fait, ça fonctionne bien parce que moi, ça m'atteint plus, mais ça ne m'attriste pas, ça m'enrage plus qu'autre chose. Oui. Ça me déçoit surtout de... Tu sais, je veux dire, je trouve que c'est très faible là, de s'insulter comme ça aussi gratuitement. Mais on est quand même chanceuse dans le sens que je pense qu'on a une très grande cote de sympathie puis qu'on est à la base des bonnes personnes. Fait que, tu sais, les commentaires négatifs sont très peu nombreux comparativement au reste. Fait que je pense qu'à la longue, on finit par accorder leur accorder d'attention en fait.
Ben, c'est là qu'on reconnaît aussi votre morale d'acier puis votre côté justement de prendre la vie du bon côté. Déby, si vous permettez, j'aimerais revenir parce que je suis allée voir sur votre page Facebook je veux juste revenir sur quelque chose de vraiment très très beau que vous avez écrit lundi dernier quand c'était l'action de grâce. Bon, parce que l'action de grâce c'est un moment, une journée, un temps qu'on prend pour remercier la vie pour différentes choses. Et si vous permettez, je vais lire ce que vous avez écrit. En cette journée d'action de grâce, j'ai envie de dire merci à mon corps. Je l'ai longtemps malmené, trouvé laid, mais lui, il ne m'a jamais lâché. Il a tout le temps été top shape, toujours fort dans la tempête et suave sur un dance floor. Je trouve que c'est génial comme entrée Facebook. Quel genre de réaction vous avez eu, puis pourquoi vous avez voulu écrire ça le jour de l'action de grâce?
Ça fait complètement sens avec où j'en suis, moi, en ce moment. Je vous parlais de livres ouverts tantôt.
Mm-hmm.
Puis la réaction a été très... ça m'a même peut-être limite mis mal à l'aise parce que tout le monde se mettait à me dire « Ah oui, t'es belle. » Puis je me disais « Mon Dieu, j'ai pas fait ça pour me faire dire ça. » Mais non, je l'ai fait parce que j'ai le corps que j'ai dans la sphère médiatique et ça, c'est un autre sujet. Mais... Oui, mais c'est parce que je sens, en tout cas, le confinement m'a amené à être un peu plus en repossession de mon corps et de mes moyens et tout ça, dans le sens que, tu sais, on est toutes, surtout toutes, je vais parler au nom des femmes, je pense que la majorité, on est toujours complexés par quelque chose, on trouve on se trouve laide, tu sais, puis ces temps-ci, j'ai fait beaucoup de changements dans mon mode de vie. Je me suis mise au yoga 4 fois semaine. Ça a été très révélateur. Puis je me sens juste vraiment bien. Puis je trouve qu'il faut le dire. Puis surtout le constat qu'on fait en pandémie de la chance d'être en santé. Là.
Tout à fait.
Le privilège. T'sais, moi, j'ai des gens là, dans mes proches qui ont eu des gros problèmes de santé. Puis je me dis, hey, mon corps, moi, c'est une sacrée bonne machine là, quand même. T'sais, j'ai jamais rien eu là, à part un petit bobo ou une petite entorse. Là, t'sais. J'ai jamais rien eu de grave. Donc, j'avais comme envie de célébrer ça puis de faire, hey, peu importe, là, t'sais, peu importe. Quel est notre corps, là? Aimons-le, tu sais. Arrêtons de le trouver laid quand on se voit dans le miroir. Arrêtons, tu sais, c'est épuisant, en fait.
Arrêtons d'être en guerre contre notre propre corps. Ça ressemble tellement souvent à ça quand je regarde les annonces, justement, pour... Bon, les gyms sont fermés en ce moment, mais tu sais, les annonces pour des gyms ou les annonces pour des régimes et tout ça, c'est toujours... On a l'impression que c'est toujours comme le corps est ton ennemi et il faut que tu le combattes. Alors que l'approche devrait...
On est toujours à 5 livres du bonheur, tu sais. c'est ça qu'on entend souvent. Puis tu fais, ben non, tu sais, dans le sens que c'est pas une affaire de poids, c'est une affaire de te sentir en forme, d'être en santé, de, tu sais. Puis justement, j'avais comme envie, je me sentais reconnaissante envers mon corps parce que je le trouve fort, tu sais. Puis on se dit pas ces choses-là assez souvent.
Ben tout à fait, puis vous l'avez fait publiquement, puis donc plein de gens vous l'ont répété par la suite. Juste en terminant, vous dites que c'est la pandémie qui vous a fait réfléchir sur tout ça, puis vous nous disiez tout à l'heure que le fait d'avoir le corps que vous avez, c'est comme ça que vous l'avez dit, dans le milieu médiatique, c'est un autre débat, mais quand même, je remarque que, donc, vous avez un corps différent dans un milieu où tout le monde est à peu près le même look, vous avez une orientation sexuelle différente dans un milieu où la majorité est quand même hétéro. Est-ce qu'il devrait y avoir plus de personnages LGBTQ à la télévision, plus de personnages avec des physiques différents, plus de comédiens, comédiennes différents, atypiques à la télé? Est-ce qu'elle est un petit peu trop toute pareille, notre télé?
Ben, il y a toujours place à l'amélioration, ça c'est sûr. Je pense qu'on a fait des grands pas dans les dernières années, que les discussions ont été ouvertes, en tout cas, dans nos discussions de société vont en ce sens-là. Après ça, tu sais, je pense que ça change jamais assez vite à notre goût. Donc, oui, il y a place à amélioration, mais ouais, parce que en tout cas, faut que la télé nous ressemble, tu sais, faut que ça ressemble à ce qu'on voit dans la rue, puis ces acteurs-là existent, ces interprètes-là existent. Donc ouais, je pense que la diversité, c'est toujours bienvenu, puis parce que ben je me dis que la jeune en région qui voit un personnage lesbienne ou homosexuel, par exemple, ou une personne grosse ou une personne racisée à la télé, ben je veux dire, ça ne peut couvrir ses esprits, ça ne peut que l'aider à se comprendre mieux. Puis je pense que c'est ça le but de ce qu'on fait, en tout cas de ce que moi je fais. Donc ouais, je pense que faut célébrer la diversité, puis pour qu'un jour, en fait, on la remarque plus autant, tu sais.
Je remarque quand même que vous avez dit la personne grosse. Vous avez le droit de le dire. Moi, j'aurais été très mal à l'aise de le dire. Est-ce que après avoir dit le mot qui commence par un N, on ne doit pas le prononcer? Est-ce que vous pensez que on devrait avoir un débat sur l'utilisation du mot grosse?
Ben, je pense que le mot grosse, en fait, c'est un adjectif, là. Je pense qu'il faut pas lui jeter un sort, je pense. Mais malheureusement, ça reste encore délicat parce que ça reste une insulte. C'est un mot qui a été utilisé souvent et qui l'est encore comme insulte, qui a pris cette connotation-là. Je pense que des gens comme Édith Bernier, par exemple, qui vient de sortir un livre sur la grossophobie, veut en entrevue, parle de ce mot-là et veut le ramener à son caractère d'adjectif. Mais après ça, tu sais, je pense que c'est un long débat auquel moi-même je dois encore réfléchir et écouter ce qui se passe en ce moment. Je trouve qu'on donne très vite notre opinion aussi en ce moment. Mm-hmm. Puis ces temps-ci, je me sens dans une période où j'ai plus envie d'écouter que de trancher.
Très bien, très bien répondu. Mais je pense que c'est l'influence aussi du yoga que vous faites 4 fois par semaine. Là, on va faire un grand om, puis on va prendre une grande respiration avant de parler. Je le respecte tout à fait. Vous avez tout à fait le droit à cette retenue. Debbie Lynch White, ben on a très hâte de voir ça, cette série donc qui s'intitule série documentaire, hein, c'est important. L'histoire de mon coming out, ça va être disponible donc au printemps, à moi et compagnie. Ben merci beaucoup. Ça a été très 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 intéressant comme discussion. Merci Debbie.
Ben, merci à vous. Bonne journée.
Merci.